Graines de curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste chez Elle à Bienne, en Suisse. Dans cette deuxième saison très spéciale, Graines de curieuse vous raconte des histoires. L'espace d'un podcast, je fais don de récits, de slams et même de nouvelles. À tous ceux qui œuvrent pour notre santé, notre sécurité et notre confort, puissiez-vous en être remerciés. Et bien sûr, à tous ceux qui doivent rester chez eux. Je débute cette série à l'heure où chacun de nous doit veiller à se protéger et à protéger autrui. En adoptant toutes les mesures préconisées par notre nation, s'il vous plaît, respectez-les pour que chacun puisse encore vivre longtemps sa propre histoire. Dans les trois épisodes à venir, Graines de curieuse mène l'enquête. Je vous lis une fanfiction écrite en 2006. Une fanfiction, c'est quoi ? C'est un récit écrit par une personne qui apprécie particulièrement une œuvre. En l'occurrence, c'était une série de télévision. Elle s'appelle FBI Portée Disparue, Without a Trace en anglais. Cette série montrait des enquêteurs du FBI en quête de personnes disparues, comme vous l'avez sans doute deviné. Cette série télévisée américaine comportait 160 épisodes de 42 minutes sur 6 saisons. Elle a été créée par Hank Steinberg et produite par Jerry Bruckheimer. Chez nous, en Suisse et en France, la série a été diffusée en français à partir de 2004. J'ai toujours aimé les récits psychologiques. Ici, les portraits sont très détaillés, tant ceux des enquêteurs que des autres protagonistes. C'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire un 161e épisode. À l'époque, je nourrissais le secret espoir d'envoyer ce manuscrit au producteur de l'émission, ce que je n'ai pas osé faire. Pour vous situer, cette série commence et se termine à New York, au siège du FBI. On y voit l'équipe de Jack Malone, spécialisée dans la recherche de personnes disparues. Dans mon récit, j'ai mis en scène 5 enquêteurs, bien qu'en réalité, il y en avait 6. Je vous en dresse un rapide portrait. Il y a d'abord le chef d'équipe, dont j'ai déjà parlé avant, Jack Malone, joué par Anthony LaPaglia. Il dirige le service du FBI, responsable des personnes disparues. Il a un look d'Italien ténébreux et il est âgé d'environ 60 ans. L'agente spéciale Vivian Johnson, Marianne Jean-Baptiste, est une femme de couleur d'environ 45 ans. Elle a une famille et elle appelle souvent ses enfants. Elle a un visage ovale, elle est de petite taille, elle sait faire preuve de calme, elle sait être aussi attentive, mais parfois sa franchise désarçonne les témoins. Il y a aussi Samantha Spade, Poppy Montgomery. C'est la jolie blonde du groupe. Elle est jeune, mince, élégante. Elle est un peu Sainte-Nitouche, avec sa bouche boudeuse. Mais elle a pourtant une personnalité plutôt cérébrale et elle cache des blessures secrètes. Ensuite, le latino du groupe, Danny Taylor, Enrique Murciano. Il est issu de la migration portoricaine. Toujours cool et souriant, il est prêt à dégainer son humour. Le cinquième, c'est Martin Fitzgerald, joué par Eric Close, c'est le beau gosse blond aux yeux bleus. Avant de travailler sous les ordres de Jack, il était chez les Cols Blancs à Seattle. Sa spécialité est d'éplucher les dossiers et les données privées des personnes en cause. Avant de commencer mon récit, je me dois aussi de vous décrire le mécanisme de cette série. Les agents spéciaux retracent la personnalité des personnages en recherchant leur fréquentation, en cherchant des preuves, bien sûr, pour déterminer si la personne disparue a été enlevée, assassinée, si elle s'est suicidée ou s'il s'agit juste d'une fugue. Dans la série, le facteur temps joue un rôle capital. Plus les heures défilent, plus les chances de retrouver les disparus diminuent. J'ai reproduit le procédé narratif de cette série en faisant le décompte du temps qui passe, par exemple, disparu depuis 1 heure, disparu depuis 1h30, etc. Dans ce récit, à l'instar de la série, l'auditeur pourra suivre chacun des personnages dans son investigation. Et il s'agirait ensuite de recouper tous les éléments comme on le ferait pour une vraie enquête. Le but, bien sûr, est de savoir ce qui a motivé la disparition et éventuellement de retrouver le ou la disparu. Voilà, vous savez tout. L'épisode 161 de FBI Portée Disparue s'intitule Tobias. Prologue. Zoom sur la fenêtre d'un gratte-ciel à l'aube. Une jeune femme somnole dans son lit. Un livre est posé sur son ventre. On peut lire en français « Élever mon enfant aujourd'hui, docteur Edwige Antier ». Le gazouillement d'un bébé nous parvient. Soudain, la porte claque. La femme se lève, se dirige vers une chambre d'enfant, elle y entre. Le berceau est vide. Disparu depuis une heure. En ce 24 janvier 2006, à 8 heures, l'agente spéciale Viviane Johnson de l'unité des personnes disparues du FBI à New York reçoit un appel du NYPD. On l'informe qu'un bébé de 9 mois a disparu au 350 West 76e rue. Elle avise son supérieur, Jack Malone. Celui-ci lui demande de se rendre à l'appartement en question avec sa collègue Samantha Spade. Le but est de recueillir les premières informations et de vérifier s'il s'agit bien d'un cas pour leur unité. Disparu depuis 1h30. Samantha Spade gare la Ford banalisée au bas d'un immeuble, derrière la Chevrolet P du NYPD. Un portier en livrée jette un œil circonspect au badge exhibé par les deux enquêtrices avant de déclarer qu'il s'appelle Gino Trovatore, tout en les accompagnant jusqu'aux ascenseurs. Il leur explique que Miss Simmons vit dans l'appartement 43B où se trouvent déjà deux policiers. Viviane Johnson lui demande jusqu'à quelle heure il est de service pour pouvoir lui poser quelques questions par la suite. Il répond qu'il travaille jusqu'à 18 heures. Il précise qu'il connaît Kate Simmons depuis 8 mois et ne comprend pas comment le bébé a pu disparaître sans qu'il le remarque. Tout cela alors que l'antique ascenseur se traîne vers la montée. Arrivé au 4e étage, le portier leur désigne la porte de l'appartement en question. Samantha frappe à l'aide du heurtoir et des yeux rougis, aux pupilles dilatées, encadrées de cheveux blonds, apparaissent. Viviane Johnson suit la mère dans le salon. Samantha se rend auprès de la police dans la chambre du bambin. Viviane Johnson observe Kate Simmons quelques secondes sans lui parler. C'est une femme mince, soignée, bien que décoiffée et vêtue d'un peignoir exhalant une senteur de fraise. Puis l'enquêtrice avance son fauteuil et met sa main sur l'une de celles de la femme pour l'empêcher de les triturer en lui demandant ce qui s'est passé. Kate Simmons explique qu'elle a couché son fils dans sa chambre, puis qu'elle s'est mise au lit vers 22h le soir précédent. Elle dit qu'elle s'est levée vers 2h du matin pour boire un verre d'eau et a jeté un œil sur l'enfant profondément endormi. Pensant qu'il récupérait du sommeil du juste, après plusieurs nuits agitées, le matin, elle ne s'est pas levée quand son réveil a sonné à 6h30. Elle s'est assoupie à nouveau, mais elle a été brusquement tirée de son sommeil par le claquement de sa porte à 7h. Sentant un courant d'air, elle s'est précipitée dans la chambre de son fils. Elle a alors constaté que l'oreiller ne présentait plus qu'une empreinte froide et que la fenêtre ouverte laissait passer le blizzard. Après avoir cherché son bébé partout, elle a appelé le 911. Viviane lui fait décrire son enfant. Tobias Simmons est un bébé calme, au petit nez en trompette et aux grands yeux bruns hérités de son géniteur. Il a déjà une toison de cheveux blonds bouclés et la peau claire comme elle. Au moment de sa disparition, il portait un pyjama d'une pièce en velours orange, grandeur 1 an, et une gourmette en or gravée à son prénom au poignet droit. La mère désigne une photo encadrée dans la bibliothèque. Elle y pose avec un bambin grimaçant en poignant ses cheveux. Puis elle saisit un album posé sur la table près d'elle pour en feuilleter les photos avec Viviane. Le bébé figure seul sur la plupart des clichés. Il n'a encore que quelques mois. Viviane lui fait remarquer que certaines photos ont été découpées. La jeune femme explique qu'elle a ôté les autres personnes sans importance, ni pour elle ni pour le bébé, car elles dataient de la période où elle se trouvait encore en France, juste après la naissance de Tobias. Viviane, ayant remarqué une pointe d'accent, demande à Kate si elle est originaire de ce pays. Celle-ci la détrompe, déclarant que son père était français, mais que sa famille est venue s'installer à New York avant sa scolarité. Habile de ses mains, elle crée des vêtements de haute couture et s'est fait un nom auprès des grandes marques de vêtements. Ses talents l'ont amenée à beaucoup voyager. Puis Viviane l'interroge sur le père de Tobias. Stéphane Fortin est courtier en bourse à Philadelphie. Ils se sont connus lorsqu'il effectuait un stage dans une banque française. Elle-même travaillait alors à Paris. Ils se sont rencontrés à un défilé de mode sponsorisé par la banque en question. Il l'a quittée 3 mois avant la naissance de leur fils, en même temps que son stage s'achevait. Elle-même a regagné les USA 8 mois plus tôt. Selon elle, il n'était pas fait pour former une famille. De son côté, Samantha Spade constate qu'un ordre méticuleux règne dans la chambre du bébé. Kate a fait de l'endroit un nid douillet où ne manque ni la table allongée, pleine de vêtements et de couches culottes, ni les jouets, mobiles, peluches, livres à mâchouiller ou nécessaires pour les soins. Les murs, d'un ton abricot, sont bordés d'une frise qui s'étale sur les quatre parois. On y voit une arche de Noé et sa rangée d'animaux, peints ou pochoirs. Si Kate en est l'auteur, elle doit y avoir passé beaucoup de temps, songe Samantha. Deux agents de police scientifique relaient ceux du NYPD. Jusqu'ici, la police n'a pu trouver le moindre indice, hormis que le cadenas fermant l'échelle de secours à l'extérieur de la chambre d'enfant a été forcé. Un bref coup d'œil par la fenêtre apprend à l'agente spéciale que l'escalier de secours est descendu jusqu'à la rue. La fenêtre à guillotine ne ferme pas complètement, permettant de glisser un objet pour la déverrouiller, un jeu d'enfant pour un ravisseur. Le berceau en pin, aux barreaux solides d'environ 3 pieds de haut, ne laisse aucune possibilité au bébé d'en sortir. Le matelas mince se trouve à son niveau le plus bas, le sac de couchage en coton molletonné jaune est ouvert et propre. L'un des enquêteurs saisit une bouteille de lotion pour bébé aux trois quarts pleine sur l'étagère et l'ouvre pour la lui faire sentir. La senteur correspond. Disparu depuis 2 heures. Samantha se rend au salon. Elle demande à Kate Simmons si elle est l'auteur de la décoration murale. Kate opine, ajoutant en pleurant qu'elle s'y est mise 15 jours plus tôt pendant que le bébé faisait ses siestes. Elle ajoute spontanément qu'elle avait acheté une gouache inodore et que cet ouvrage lui a pris 10 heures. Pendant que Vivian continue l'interrogatoire, Samantha appelle Jack Malone pour lui résumer la situation. Elle lui demande si Danny Taylor peut la rejoindre pour interroger les voisins. Jack accepte. Il demandera en outre à Martin Fitzgerald de s'occuper des vérifications depuis le bureau. Lui-même se rendra à Philadelphie pour interroger le père du bébé. Et comme la piste d'un enlèvement se dessine, il fera mettre la ligne de la mère sur écoute et Vivian Johnson restera avec elle au cas où le ravisseur s'annonçait. L'agente Johnson demande à Kate le nom du pédiatre de l'enfant et celui de la personne qui la garde pendant qu'elle travaille. La jeune mère répond qu'elle n'a encore pas consulté de médecin depuis son arrivée aux USA, car tout se passe bien. Elle précise qu'elle allait encore son bébé et elle se remet à pleurer. Entre 2 sanglots, elle explique qu'elle n'a pas à s'en faire pour la garde de son enfant, car elle travaille à mi-temps. Elle a sa propre boutique et peut donc emmener son enfant avec elle. Elle dit que le bébé ne les a jamais dérangés, elle ou ses clients. Vivian lui demande la liste de ceux-ci. Protestant qu'ils ne peuvent être liés à tout cela, Kate déclare que son registre se trouve à la boutique, située dans Greenwich Village. Disparu depuis 2h30. Danny Taylor arrive au moment où Samantha sort de l'appartement 43B. Vivian lui confie l'enquête de voisinage, ainsi que l'adresse de la boutique de couture de Kate Simmons. Samantha se chargera d'interroger le portier avant de retourner au bureau. Kate lui a appris que sa mère, la grand-mère du bébé, vivait en Virginie, mais elle prétend ne plus avoir de contact. Cela reste tout de même une piste à explorer. Gino Trovatore, le portier, raconte que Kate porte son bébé la plupart du temps dans une poche kangourou. Il arrive aussi qu'elle l'emmène en poussette. Jusque-là, cette locataire n'a jamais attiré l'attention. Samantha lui demande si la jeune femme reçoit des visites. Le portier dit qu'il ne se rappelle pas avoir accompagné quelqu'un jusqu'à l'appartement 43B. Il donne à Samantha l'adresse du portier de nuit au cas où celui-ci aurait vu de la visite. Puis il ajoute que le bébé est assurément très calme, car jusqu'ici, il n'a eu l'occasion d'admirer que la magnifique chevelure de l'enfant, mais n'a jamais vu son visage. L'homme paraît nerveux, et un je ne sais quoi de fuyant dans son regard incite Samantha à contrôler ses antécédents. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un courriel à info@grainesdecurieuses.ch avec un 2 entre les deux mots ou sur la page Facebook dédiée à ce podcast. Et de mettre des étoiles sur iTunes si vous l'appréciez. Prenez soin de vous et de nous et soyez heureux.